Vous êtes avec SBS French.
À la une de ce jeudi 2 mai 2024, le gouvernement travailliste dévoile ses premières mesures pour lutter contre les violences faites aux femmes. Aux États-Unis, toujours des affrontements violents sur les campus de plusieurs universités entre militants pro-palestiniens et pro-israéliens. Enfin, en France, à l'occasion du traditionnel défilé du 1er mai hier, les syndicats ont appelé à défendre les conditions de travail des travailleurs pendant les Jeux olympiques. Et on l'apprend à l'instant, un jeune surfeur de 22 ans a été poignardé à mort ce matin dans la ville de Coffs Harbour, au nord de la Nouvelle-Galles du Sud. La police sur place mène actuellement des recherches pour retrouver son assaillant. Elle appelle également toute personne ayant des informations à ce sujet à la contacter au plus vite. Je précise qu'à ce stade, donc, l'identité du meurtrier n'est pas connue, pas plus d'ailleurs que ses possibles motivations. Et puis, je vous le disais dans les titres, à la suite des importantes manifestations ces derniers jours pour dénoncer les violences contre les femmes, le Premier ministre Anthony Albanese vient d'annoncer une initiative visant à supprimer les contenus misogynes en ligne. Un plan qui prévoit également d'imposer des mesures de vérification d'âge beaucoup plus strictes aux sites pornographiques, mais aussi une campagne nationale visant à dénoncer les attitudes misogynes et la violence auxquelles sont confrontées les femmes sur Internet. Une bataille cruciale, selon Anthony Albanese, pour qui ces types de contenus qui pullulent sur le web peuvent avoir une énorme influence sur les plus jeunes. Il s'en est expliqué chez nos confrères de ABC.
You have a debate at times about, you know, freedom of information and those issues, free speech. This isn't free speech to promote hatred and violence and misogyny. We need to have that debate as a society as well.
Et parallèlement à ces mesures qui visent à faire évoluer les mentalités, les travaillistes comptent également mettre la main à la poche pour mieux protéger les femmes, avec notamment une enveloppe de 925 millions de dollars destinée à soutenir justement les femmes fuyant des violences conjugales. Un programme qui sera mis en place à partir de juillet 2025 et que la ministre des Services sociaux, Amanda Rishworth, a défendu sur Channel 7.
This program is a very important permanent program now, and that means that women will have the financial support that they will need if they are thinking about leaving. But of course, it's not the only program. We need to make sure that we are investing in prevention, early intervention, response, and also healing and recovery. That's another important area because we don't want the cycle of this violence to continue.
À noter enfin que c'est aujourd'hui que Molly Ticehurst sera enterrée dans la ville de Forbes en Nouvelle-Galles du Sud, où se tiendra également une cérémonie funèbre ouverte au public pour lui rendre hommage. Cette jeune femme de 28 ans est morte il y a quelques jours sous les coups de son ex-conjoint, qui venait d'être libéré sous caution après avoir justement été arrêté pour des violences la ciblant. Sur un tout autre sujet, l'Australie va-t-elle devenir un champion de la recherche médicale? C'est en tout cas ce qu'espère le gouvernement fédéral qui vient d'annoncer qu'il allait investir 2 milliards de dollars dans un fonds dédié à la recherche, qui se focalisera notamment sur le cancer, les inégalités en matière de santé et la santé des femmes. Un plan qui fait partie du projet de réindustrialisation porté par les travaillistes et baptisé Future Made in Australia. Je vous propose d'écouter Mark Butler, le ministre de la Santé.
Health and medical researchers, in my experience in Australia, are never content to rest on their laurels. They're constantly wanting to continue to push the envelope. And today's announcement of a package of around $1.9 billion in initiatives that will be contained in the budget the week after next will, I think, really assist health and medical researchers in Australia to do exactly that.
Et si l'Australie a pleinement pris conscience du risque que représente la Chine pour sa sécurité, elle sous-estime complètement le risque bien plus sérieux que fait peser le réchauffement climatique. C'est la déclaration choc d'un ancien chef de l'armée australienne, l'amiral Chris Barry, qui déplore que la stratégie de défense nationale dévoilée le mois dernier par Richard Marles fasse à peine mention de cette menace climatique. Il considère pourtant pour sa part qu'elle représente, je cite, un défi sans précédent pour la sécurité nationale et un amplificateur de pauvreté, d'insécurité alimentaire et de déplacements non désirés de population. Chris Barry relève par ailleurs que le projet du gouvernement de renforcer et de construire de nouvelles bases militaires dans le nord du pays ne tient absolument pas compte du fait que les régions où elles se trouvent, en cas de réchauffement supérieur à 2,5 degrés, ce qui n'est malheureusement pas une perspective irréaliste, seront dans des zones totalement invivables. Depuis 2022, Anthony Albanese refuse pour sa part de rendre public un rapport des services de renseignement qui avait évalué les risque pour la sécurité de l'Australie posé par le réchauffement climatique. Le Royaume-Uni a expulsé hier un premier demandeur d'asile débouté par les autorités vers le Rwanda dans le cadre de la politique anti-immigration poussée par l'actuel gouvernement conservateur et qui s'inspire directement des centres de détention offshore opérés par l'Australie. Londres et Kigali ont ainsi signé la semaine dernière un partenariat permettant la mise en œuvre de cette politique. Politique par ailleurs considérée comme contraire au droit international sur les réfugiés par le Haut Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies. Précision Emeline Vin pour RFI.
Le migrant originaire du continent africain et débouté de sa demande d'asile au Royaume-Uni a reçu 3 500 € pour partir s'installer au Rwanda où il aura le droit de vivre et de travailler. Une relocalisation volontaire rendue possible par un programme annoncé en mars par le gouvernement britannique. Les demandeurs d'asile ayant épuisé tous leurs recours ainsi que certains criminels étrangers peuvent postuler pour partir s'installer dans un pays tiers sans pour autant être renvoyés dans leur pays d'origine. Il ne s'agit pas ici du partenariat rwandais. Rwanda promis depuis 2 ans par Londres, qui doit viser, lui, les migrants arrivés illégalement sur le sol britannique. Eux n'auront pas la possibilité de demander l'asile et seront expulsés de force vers Kigali sans toucher ces 3 500 €. Cependant, pour l'exécutif, cette réinstallation montre bien que le Rwanda est un pays sûr, à même de recevoir des groupes de migrants, un argument contesté par la justice britannique. Elle fournit également un symbole fort pour les électeurs à la veille d'élections locales à travers le pays où le parti conservateur au pouvoir est annoncé perdant. Emeline Van Londres, RFI.
Le Hamas n'a pour l'instant pas répondu à la proposition de trêve formulée en début de semaine par Israël, mais promet malgré tout de le faire très rapidement. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, actuellement en déplacement en Israël, a pour sa part estimé qu'un refus de la part du Hamas signifierait que le mouvement islamiste n'a vraiment pas la moindre considération pour le peuple palestinien. On fait le point avec Sami Boukhalifa pour RFI.
Le Hamas doit accepter la très bonne proposition d'accord qui est sur la table, assène Anthony Blinken. Comprendre, la balle est dans le camp palestinien. Washington met donc la pression sur le Hamas, mais dans le détail, on ignore ce que signifie bonne proposition d'accord dans la bouche du secrétaire d'État américain. Pour le Hamas, un bon accord est synonyme d'un cessez-le-feu permanent, un arrêt total des combats et le retrait des troupes israéliennes de la bande de Gaza, en contrepartie de la libération des otages israéliens. Refus catégorique d'Israël. Hier encore, le premier ministre israélien le rappelait, accord ou pas, notre objectif est d'éradiquer le Hamas. Quand vous souhaitez négocier avec quelqu'un, vous ne le menacez pas de mort, confiait récemment à RFI un ancien négociateur israélien. Les déclarations fortes, en apparence, du secrétaire d'État américain cachent une faiblesse diplomatique. Washington ne parvient en réalité à faire pression ni sur les Israéliens, ni sur les Palestiniens du Hamas. En Israël, Anthony Blinken arrive en terrain miné. Une partie du gouvernement israélien rejette l'accord actuellement sur la table. Les ministres de l'extrême droite menacent de faire chuter Benjamin Netanyahou s'il acceptait un accord qui nuirait au principal objectif de guerre. La priorité pour eux est de lancer une offensive terrestre à Rafah où serait retranchée la direction du Hamas. Sami Boukhalifa, Jérusalem, RFI.
Et puis toujours en lien direct avec ce conflit qui ensanglante le Moyen-Orient, les pro-palestiniens et les pro-israéliens se sont affrontés violemment hier sur le campus de l'université UCLA en Californie. Alia Medina, une étudiante de 19 ans, regrette ainsi que ces manifestations, qui agitent au total plus d'une douzaine d'universités à travers les États-Unis, ne puissent pas se dérouler sereinement.
It's very sad to see that some people cannot, I guess, protest peacefully. But I think it's for a great cause. These students are here, like, to speak their voice and speak for people that aren't able to, and actually stand up for something that they believe in. So it's a beautiful thing, but at the same time, I wish that it was kept peacefully.
Et à l'autre bout du pays, plus de 300 manifestants pro-palestiniens ont été arrêtés par la police à New York, alors que ces manifestants occupent depuis quelques jours l'université de Columbia. La porte-parole de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre, a elle dénoncé la violence et les méthodes des manifestants.
Forcibly taking over a building is not peaceful. It's just not. Students have the right to feel safe. They have the right to learn. They have the right to do this without disruption. And they have a right to feel safe on campus, as I just said. They have a right to attend their commencement without feeling unsafe. And what we're seeing is a small percentage of students. That's what we're seeing. They should not be able to disturb or disrupt the academic experience.
Le producteur déchu Harvey Weinstein devrait prochainement comparaître de nouveau devant la justice, quelques jours seulement après qu'il ait été exonéré de sa condamnation pour viol en 2020. Il avait été alors condamné à 23 ans de prison. Son avocat, Arthur Aidala, a dénoncé depuis les marches du tribunal une justice partiale.
Mr. Weinstein did not get a fair trial. I mean, that's the easiest way for people to understand it. Is that they said he did not get a fair trial and he deserves to have a do-over, although he was acquitted of the most serious charges. So it'll be a less dramatic trial, it won't be as long.
Enfin, une petite victoire pour les défenseurs du droit à l'avortement aux États-Unis. En effet, les législateurs de l'État d'Arizona ont abrogé une loi qui datait de 1864, en vertu de laquelle l'avortement était totalement prohibé, mais qui, très étonnamment, avait été jugé toujours valable, malgré son ancienneté, il y a quelques mois, par la Cour suprême de l'État. Au-delà de cette question de l'avortement, cet État jouera un rôle crucial dans la course à la présidentielle dans quelques mois, tant pour Joe Biden que pour Donald Trump. Les grandes villes de France ont vu hier défiler, comme c'est la tradition, travailleurs et syndicats à l'occasion du 1er mai. Ils étaient 120 000 selon la police, 200 000 selon les manifestants, selon les syndicats. Et si l'année dernière, c'est surtout la réforme des retraites qui avait poussé les gens dans la rue, cette année, c'est notamment la question des conditions de travail pendant les Jeux Olympiques qui a animé les cortèges. Un message porté notamment par Sandrine Binet, la secrétaire générale de la CGT.
À quelques semaines des JO, moi j'ai envie de vous dire que nous en avons ras-le-bol. Ça fait plus de deux mois que la CGT interpelle les pouvoirs publics sur tous les dysfonctionnements sociaux dans la préparation des Jeux. J'ai demandé il y a deux mois à ce qu'il y ait une table ronde qui se tienne à Matignon pour pouvoir regarder l'ensemble des problèmes qui se posent. Nous n'avons toujours pas eu de réponse des pouvoirs publics. Ils ne sont même pas capables de trouver une date pour organiser cette table ronde avec tous les interlocuteurs et interlocutrices autour de la table. Et donc à partir de là, j'ai envie de vous demander comment voulez-vous que ça se passe bien. On dit aux salariés de ne pas se laisser faire et de se mobiliser pour gagner des accords dans leur entreprise. Le problème, c'est que les pouvoirs publics aujourd'hui ne jouent aucun rôle là-dedans et que nous sommes obligés de hausser le ton pour forcer le patronat à ouvrir des négociations partout.
On vient donc d'écouter Sandrine Binet, secrétaire générale de la CGT, au micro de Nathalie Vitran pour RFI. Allez, on jette maintenant un œil à la météo du jour en Australie. Soleil et 21 degrés aujourd'hui à Adélaïde, 17 et des nuages à Melbourne. Il pleut à Perth où il fait 25 degrés, idem à Sydney où le thermomètre affiche 22 degrés, 24 à Brisbane où le temps est également humide aujourd'hui. En revanche, grand soleil et jusqu'à 35 degrés au thermomètre ce jeudi à Darwin.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.